Bienvenue. Bon, je vois que nos rangs se sont un peu clairsemés. On commence à voir la fatigue des grèves et la proximité de Noël. Mais enfin, vous êtes quand même un nombre tout à fait convenable, malgré tout. Aujourd'hui, nous avons dans notre cycle d'ambassadeurs le grand bonheur d'avoir monsieur l'ambassadeur de la Sablière, qui est un homme qui peut incarner en quelque sorte le Quai d'Orsay de ces dernières décennies, puisque vous avez été vous-même fils de diplomate, donc vous avez connu ce qu'est l'enfance d'enfant de diplomate, c'est-à-dire de passer d'un pays à un autre et pratiquement de découvrir qu'assez tardivement votre pays natal, puisque vous avez, avant l'âge de 20 ans, disons, passé plus de temps à l'étranger qu'en France métropolitaine. Vous avez fait des études classiques, Sciences Po, l'ENA, et ensuite les cabinets ministériels, surtout, et puis vous avez été ambassadeur de France en Égypte, Sherpa, c'est-à-dire conseiller diplomatique du président Chirac, et représentant permanent de la France au Conseil de sécurité de 2002 à 2007. Donc, votre histoire personnelle couvre très largement la vie diplomatique française dans les différents postes que vous avez exercés. Vous avez aussi, je crois, la direction d'Afrique. Voilà, donc avec des affaires assez douloureuses comme le Rwanda ou le Tchad. Donc, monsieur l'ambassadeur, je vous cède tout de suite la parole et en tout en vous remerciant d'être venu. Oui, c'est pour voilà.
C'est moi qui vous remercie, professeur, et de m'avoir invité. Je suis très honoré à participer à ce séminaire donc pour évoquer la politique étrangère de Jacques Chirac et le monde arabe, en partant donc de mon expérience lorsque j'étais conseiller diplomatique du président ou ambassadeur nommé par lui en Égypte et à l'ONU. De manière un peu provocante, peut-être, je commencerai par une interrogation. Peut-on véritablement parler d'une politique arabe de Jacques Chirac en ce sens qu'il y aurait eu au départ, c'est-à-dire au lendemain de son élection, une vision globale de la politique à mener dans le monde arabe ou à l'égard du monde arabe, la suite n'étant que la déclinaison de cette vision. Je crois qu'on peut le prétendre, mais aussi présenter des éléments pour nuancer une telle affirmation. Il y a en effet au départ un grand discours du président prononcé à l'Université du Caire, début avril 1996, où il a déclaré, là je le cite, « La politique arabe de la France doit être une dimension essentielle de sa politique étrangère. Je souhaite lui donner un élan nouveau dans la fidélité des orientations voulues par son initiateur, le général de Gaulle. » Donc c'était un signal fort, mais était-ce seulement un élan ou davantage? Alors, j'ai eu le privilège de parler souvent et parfois longuement des crises du Moyen-Orient avec le président. Vous savez, son conseiller diplomatique, quel qu'il soit, nous avons été plusieurs, avait le privilège de le voir quotidiennement, parfois plusieurs fois, de voyager à côté de lui. Le président téléphonait aussi beaucoup, y compris dans la soirée chez vous, le matin tôt. Donc, il me semble, en relisant d'ailleurs ce discours, que les principes qui y figurent, dialogue entre partenaires égaux, droit des peuples à la détermination de leur destin, à l'affirmation de leur indépendance, à leur droit à la sécurité, soutien à l'aspiration des peuples arabes à la solidarité, à l'unité, appui aux aspirations à l'ouverture et à la paix, contre l'extrémisme, enfin, tous ces principes sont importants, mais ils sont rédigés en des termes généraux et ils ne suffisent pas à expliquer une action qui s'est déroulée sur 12 ans en fonction des circonstances. Alors, l'élan ainsi donné, le président Chirac consacrait beaucoup de temps et d'énergie à des situations dans la région et il traitait chaque dossier en fonction de sa logique propre. sans référence à une architecture couvrant l'ensemble, et s'il lui arrivait d'évoquer la civilisation ou la culture arabe, il le faisait, c'est mon souvenir, dans un but précis. À l'UNESCO, dans son beau discours que je vous invite à lire sur la diversité culturelle, il l'évoqua ainsi d'ailleurs que d'autres grandes cultures, mais dans un souci, c'était juste après la tragédie du 11 septembre 2001, de prévenir un choc des civilisations, pour reprendre l'expression de Samuel Huntington, qu'il utilisait d'ailleurs. Cette préoccupation qu'il martelait alors dans ses entretiens était d'abord destinée aux dirigeants occidentaux. Faites attention, leur disait-il, ne faites pas l'amalgame entre le terrorisme islamique et le monde musulman. C'était d'ailleurs l'un des principaux messages, l'un de ses principaux messages à George Bush au dîner de travail à la Maison-Blanche, qui a eu quelques jours, je crois que c'était une semaine à peine, après le drame du 11 septembre. Et là, tout l'entourage de Bush au grand complet, Cheney, Rumsfeld, Wolfowitz, Colin Powell, Rice. Enfin, c'était un dîner assez intéressant. Alors, la politique du président Chirac en réaction à bien des crises dans le monde arabe était souvent fondée sur des principes, des convictions bien enracinées. Mais à y regarder de près, on est amené à constater que ces ressorts se retrouvent dans sa politique étrangère concernant d'autres parties du monde. Qu'il s'agisse de sa tendance à être du côté des faibles, de sa volonté de recourir au Conseil de sécurité de l'ONU, de ses rappels au respect de la charte, notamment ce qui concerne l'usage de la force, de son souci que cet usage, en dernier sort, soit proportionnel à la violation, je dirais de sa méfiance à l'égard des sanctions générales touchant durement les peuples ou de sa capacité, en cas de désaccord avec les États-Unis, à l'exprimer, attitude cette fois gaullienne. Enfin, il y avait le style Chirac. Je pense en action très personnalisée, qui était appréciée dans le monde arabe. Alors, les images comptent beaucoup. Et le pic a été atteint à cet égard à Jérusalem, en octobre 1996, dans la vieille ville. Je pense que vous avez tous en mémoire ce qui s'est passé lorsque Jacques Chirac, près de l'église Sainte-Anne, dans l'exaspération du moment, s'est rebiffé contre la sécurité israélienne et a montré aux Palestiniens et au monde qu'il n'était pas homme à accepter des pressions et qu'il pouvait se fâcher. Le président Chirac croyait aux vertus du dialogue entre dirigeants, il communiquait régulièrement avec plusieurs d'entre eux, parmi lesquels plusieurs leaders sunnites, et j'y reviendrai. J'ajouterai que naturellement, il discutait avec tous les autres membres du Conseil de sécurité des affaires du Moyen-Orient, et donc également avec les Russes. Et il avait établi avec Vladimir Poutine une relation confiante. Alors ça peut nous paraître aujourd'hui étonnant, mais c'était une relation confiante. Leurs conversations étaient approfondies. Et lorsque le président se rendait en Russie, quelquefois 36, 48 heures, il se voyait à plusieurs reprises, longuement, en tête à tête, ou accompagné chacun d'une seule personne, qui avait le conseiller à côté, et d'un interprète. Alors j'ai passé bien des années au Moyen-Orient, enfant, étudiant, mon père était ambassadeur à Tel Aviv d'ailleurs, adulte en Égypte comme ambassadeur, et j'ai été, j'espère, en tous les cas, très tôt prémuni contre les risques de simplification. Et pour rester dans ce registre, je crois qu'il faut prendre en compte également deux éléments. Le premier est une évidence, c'est que les pays arabes sont loin d'être toujours d'accord entre eux, et que Jacques Chirac, dans certains de ses engagements les plus manifestes, a fait des choix clairs, ainsi dans l'affaire du Sahara occidental, le Maroc par rapport à l'Algérie. Et deuxièmement, Jacques Chirac était une personnalité dont on comprend aujourd'hui, après tout, les émissions qui ont été faites au moment de sa disparition, c'était une personnalité complexe, un défenseur des principes, mais doté cependant d'un assez grand pragmatisme. Sa politique, si les circonstances le commandaient, pouvait donc évoluer. Donc, après ces considérations générales, je vais maintenant aborder dans l'ordre le conflit israélo-palestinien, l'Irak, les affaires du Liban et de la Syrie, en terminant par le Maghreb et l'espace méditerranéen. Alors, Sur le conflit israélo-palestinien, je dirais d'abord que les médias, mais pas seulement les médias, ont souvent présenté la politique de Jacques Chirac comme étant de parti pris, résolument pro-palestinienne et anti-israélienne. Alors, il a répondu lui-même à cette présentation sommaire pour la corriger. En 2005, il a déclaré dans une interview, et je le cite, « Il n'y a pas une politique pro-arabe, sous-entendu de la France, ce qui a l'air de dire qu'elle serait anti-israélienne. Il y a une politique d'amitié avec Israël et d'amitié avec les pays arabes. L'une n'est pas exclusive de l'autre. » Enfin, la rengaine est tenace, accompagnant un certain nombre de faits qui, eux, sont bien exacts. Il est vrai qu'il a été, en 1996, le premier chef d'État à parler à Ramallah au Conseil législatif palestinien. Il est vrai qu'il avait une très bonne relation avec Yasser Arafat, qu'il appelait, vous vous souvenez, docteur Chirac. Il est vrai également que le président a accédé à la demande du leader palestinien d'être soigné en France, lui envoyant un avion et prenant même la décision, d'après ce que je sais, et sur le champ, comme une évidence, je veux dire, pour des raisons morales. Il est vrai enfin que parmi les grands dirigeants occidentaux, il a été le plus attentif à l'amélioration du sort des Palestiniens, le plus critique à l'égard de certaines pratiques sécuritaires israéliennes. Mais on doit ajouter que tout ceci ne fait pas une politique. La politique de Jacques Chirac dans l'affaire israélo-palestinienne était, semblait-il, élaborée, complète, fondée à la fois sur la conviction que le règlement de ce conflit était prioritaire dans la région et sur la référence à des principes. Et tout en associant l'Europe à la recherche d'un accord, il avait d'abord la volonté que la France, au-delà des grandes déclarations, soit active sur le terrain diplomatique. Alors je reprendrai chacun de ces points. La priorité a été affirmée au début de son mandat, dans son discours, quelques mois donc après avoir été dans son discours du Caire. Je pense qu'il était fortement convaincu que de tous les conflits dans cette zone, le conflit israélo-palestinien était particulier, il pesait sur les esprits partout dans le monde arabe et rendait aussi impossible la bonne intégration d'Israël dans la région. Alors, si certains chefs d'État arabes, par choix ou contrainte, en sont arrivés à accorder à la cause palestinienne une place assez secondaire par rapport à leurs intérêts nationaux, la sensibilité de la rue arabe, comme on dit, elle, a toujours été et reste très grande, je crois, dès qu'il est question de la Cisjordanie et surtout de Jérusalem. Et moi, j'étais depuis peu en Égypte, lors de la visite du tournée du président dans la région. Et l'incident dans la vieille ville, le 22 octobre 1996, a soulevé une énorme émotion dans le monde arabe. Et que de fois, parce que ce n'est pas arrivé une fois, cinq fois, mais 10 fois, je veux dire, des mois après cet épisode, pris dans les terribles embouteillages du Caire, des vendeurs ambulants ou des piétons, reconnaissant le fanion tricolore sur mon véhicule, tapaient amicalement, comme ça, la vitre que j'abaissais immédiatement, sachant qu'ils voulaient seulement serrer la main du représentant de Jacques Chirac. Deuxièmement, dans cette affaire, les principes défendus par le président Chirac étaient ceux de l'ONU. Alors, le droit des Palestiniens à l'autodétermination, un État d'inéviable, les résolutions de 142 et 338, autrement dit la terre contre la paix, mais aussi la sécurité d'Israël, le droit des habitants à vivre à l'intérieur de frontières sûres et reconnues, et pour être durable, la paix devait à ses yeux être globale et donc s'étendre aussi à la Syrie et surtout au Liban. Alors je dis ça parce que, au total, il reprenait les termes de référence qui étaient arrêtés par le Conseil de sécurité. Mais il est vrai qu'il les répétait avec plus de force que d'autres dirigeants occidentaux. Troisièmement, tout en affirmant avec conviction et en pensant au coût de la paix que l'Union européenne devait être un facilitateur du règlement, le président Chirac, je crois, avait trop le sens des rapports de force et la connaissance des nuances européennes pour ne pas savoir que dans certaines circonstances, la voix de la France pouvait porter plus loin que celle de l'Europe et que son action diplomatique pouvait être plus opérationnelle et efficace. Alors il s'est donc personnellement engagé et de manière très active dans le processus lorsqu'il a cru, avant et après la rencontre de juillet 2000 à Camp David organisée par Bill Clinton, que la paix était peut-être à portée de main et qu'il pouvait utilement y contribuer. Alors à cette époque, notre relation avec le gouvernement israélien s'était beaucoup améliorée. Le nouveau Premier ministre travailliste, Ehud Barak, et Jacques Chirac se parlaient assez souvent au téléphone. Et j'étais moi-même en contact avec le général Yatom et avec Gilead Sher, qui était proche du Premier ministre israélien. Et avant Camp David, Gilead Sher, qui était l'un des principaux négociateurs, est d'ailleurs venu à Paris, annoncé par Ehud Barak. Et il m'a commenté, carte à l'appui, je me souviens, j'étais étalé par terre dans mon bureau, les positions israéliennes. Et connaissant un peu la région et sachant qu'il en gardait sous le pied, comme tous les négociateurs, hein, je veux dire, j'ai été à ce point impressionné et convaincu du sérieux de la rencontre à venir, des chances d'avancer, que j'ai demandé immédiatement à voir le président Chirac pour lui faire part de cet entretien. Alors, après Camp David, au vu de ses entretiens avec Bill Clinton, avec lequel il avait une bonne relation, et avec Ehud Barak, Jacques Chirac était persuadé que la rencontre, sans avoir abouti, avait quand même permis d'avancer, sauf sur Jérusalem. Et il s'est alors investi pleinement. Et nous avions bien conscience, je crois, des ambiguïtés et imprécisions de certaines positions israéliennes, mais il lui semblait que l'on pouvait arriver à un accord, qu'il s'agisse des frontières, des colonies, des échanges de territoires, de la sécurité et même de l'affaire des réfugiés. En revanche, la solution sur Jérusalem paraissait encore très éloignée, très difficile, dès lors que le partage de la vieille ville conduisait à poser la question de la souveraineté sur ce qui était... je dirais, pour certains, pour les uns, le troisième lieu saint de l'islam, et pour les autres, le mont du Temple. Alors, ce fut une période étonnante. D'autres responsables arabes s'introduisirent dans des échanges informels qui ont eu lieu. Je me souviens, moi, d'avoir évoqué avec Amr Moussa, qui est un ami de longue date de l'ONU, qui était encore ministre des Affaires étrangères d'Égypte, toutes sortes de concepts, et y compris celui de souveraineté divine, inventé. À New York, début septembre et en marge du sommet du millénaire, puis à Paris dans les jours qui suivirent, Jacques Chirac força un peu le trait, cherchant à pousser les partis à une reprise des discussions. Bien sûr, le président savait que Clinton et Barak avaient perçu son désir de favoriser un accord et que leurs appels téléphoniques visaient donc à l'utiliser pour faire pression sur Arafat. Mais c'est en toute indépendance qu'il avait alors parlé aux leaders historiques palestiniens. Et j'ai encore en mémoire Yasser Arafat expliquant dans le bureau du président, entouré de quelques responsables du Fatah, en quoi les propositions israéliennes étaient loin d'être aussi claires et significatives que Barak le prétendait. Surpris sans doute que Jacques Chirac lui conseille de poursuivre activement la recherche d'un accord, fasse appel à sa place dans l'histoire, à sa responsabilité à l'égard du peuple palestinien, il était visiblement un peu mal à l'aise. Alors on sait que les tentatives faites à l'époque pour la reprise des discussions se sont évanouies, avec la tension violente née de la visite d'Ariel Sharon sur l'esplanade des mosquées le 28 septembre 2001, qui donna naissance à la deuxième intifada. C'est un beau sabotage. Jacques Chirac, profitant de rencontres entre les partis organisées début octobre par les Américains à Paris autour de Madeleine Albright, les reçut et s'efforça, lui aussi, de favoriser la fin des violences. Et au lendemain d'une étrange soirée de dupes, il fut publiquement cloué au pilori par le Premier ministre israélien, qui était ulcéré de sa déclaration devant les caméras lorsqu'il avait dit sur le perron de l'Élysée « On ne lutte pas contre l'émotion d'un peuple avec des blindés. » Ehud Barak avait d'ailleurs mal accepté que le président Chirac soutienne fermement la création d'une commission d'enquête internationale qu'il espérait pouvoir éviter, bien qu'elle fût l'une des conditions mises par les Palestiniens à la reprise des négociations, et que le principe en était accepté par les Américains. Nous avons donc eu, une nouvelle fois, une crise franco-israélienne. Cette commission fut créée plus tard sous la présidence de George Mitchell, mais la violence se développa néanmoins. Ainsi fut consommée la tentative de Camp David de l'an 2000. Dommage, car des progrès peut-être décisifs auraient pu être faits à l'époque. Le résultat des discussions qui ont été menées en janvier 2001 à Taba avec l'aide de Miguel Moratinos le laisse penser. Dans cette affaire, c'est la volonté qui a manqué et qui fait aujourd'hui encore le plus cruellement défaut. Mais on retiendra ici que lorsqu'il crut possible un accord de paix, Jacques Chirac s'engagea pleinement. Je reviens maintenant à l'Irak. Alors, la crise irakienne de 2003 a marqué les esprits par sa gravité et les conséquences que la guerre américano-britannique a eues au Moyen-Orient. Et lors de sa disparition, hommage a été rendu à Jacques Chirac, à sa lucidité dans cette affaire, à son indépendance, à sa capacité de dire non à la plus grande puissance. Les louanges presque unanimes en France se sont étendues bien au-delà, notamment dans le monde arabe. Alors, tout a commencé au premier semestre 2002. Moins d'un an après le drame du 11 septembre, les signaux alarmants d'une intervention militaire des États-Unis en Irak, pays pourtant étranger à la tragédie, se multipliaient. Et le prétexte mis en avant était la non-élimination de toutes les armes de destruction massive irakiennes en violation des résolutions du Conseil de sécurité. Alors Jacques Chirac, en 2002, donc, va très vite entrer sur le devant de la scène par des déclarations fortes avec deux objectifs. D'une part, obtenir de Saddam Hussein qu'il accepte le recours sans condition des inspecteurs des Nations Unies, qui étaient chargés de vérifier l'élimination de ses armes, inspecteurs qui avaient été déclarés, comment est-ce qu'on dit, peut-être au pluriel, personnés non grattés en Irak depuis 1998. Et d'autre part, obtenir des Américains qu'ils respectent les compétences du Conseil de sécurité, où la crise devait être traitée. Ainsi, pensait le président, serait éloigné le risque d'une action militaire et mise en place une procédure pacifique pour le règlement du problème des armes de destruction massive irakiennes. Alors George Bush appela finalement le président début novembre pour lui dire qu'il irait à l'ONU, qu'il y annoncerait le dépôt d'une nouvelle résolution, mais en ne laissant cette fois aucune échappatoire à Saddam Hussein. Son refus de l'appliquer strictement entraînerait un recours à la force. Et deux semaines après le discours de George Bush à l'Assemblée générale des Nations Unies, la France et Dominique de Villepin étaient assez actifs à ce moment-là, et les pays arabes, agissant à travers la Ligue, obtinrent l'acceptation irakienne d'un retour des inspecteurs. Alors Jacques Chirac avait donc atteint son premier objectif. Alors s'engagea ensuite, alors entre Français et Américains, la négociation d'un texte qui s'appelle, qui porte le numéro 1441, la résolution 1441. Alors l'objectif était de donner, premier objectif était de donner aux inspecteurs un mandat suffisamment intrusif pour que Saddam Hussein ne puisse jouer au chat et à la souris comme dans le passé. La France veilla cependant à ce que l'intrusion ne puisse se transformer en des provocations créant un prétexte au déclenchement de la guerre. Les armes de destruction massive, s'il y en avait, devaient être donc identifiées et détruites. La discussion porta également sur les conséquences d'une violation éventuelle de la résolution. Que se passerait-il en cas de non-coopération irakienne? Alors, la négociation fut longue, difficile. La France obtint finalement de haute lutte qu'il n'y ait pas d'automaticité de recours à la force. En cas de violation, le Conseil de sécurité serait saisi non par les États, mais les inspecteurs, évaluerait la situation et prendrait une décision. Alors, ce fut une grande négociation menée par les ambassadeurs à New York, mais aussi, à certains moments, ça c'est intéressant de voir comment ces textes très importants peuvent être sont parfois négociés. Donc, parallèlement, les ambassadeurs négociaient, puis parallèlement, il y avait à certains moments des discussions entre les capitales. Colin Powell et Dominique de Villepin parlaient. Villepin était en contact avec Ivanov. C'était assez amusant parce qu'ils parlaient tous les deux en espagnol avec l'accent des Caraïbes. Parce que Ivanov avait appris l'espagnol, donc on pense à Cuba, et Villepin avait été élevé au Venezuela. Et je me suis moi-même, pour ma part, rendu à Washington pour discuter avec Condoleezza Rice. Et le président a eu deux conversations avec George Bush. Il suivait la négociation de très près, parfois en temps réel. Je me souviens, un jour, on était en novembre, en Égypte, on roulait dans la même voiture, la voiture du président, avec Dominique de Villepin. Il était sur la corniche à Alexandrie. Puis soudain, j'ai reçu un appel de New York. C'était notre ambassadeur, Jean-David Levitt, qui rendait compte d'une évolution des discussions. Il ne pouvait pas mieux tomber, parce qu'il a eu immédiatement une réaction bénie par le président. Non, la résolution 1441, malgré une ambiguïté, fut considérée comme un espoir de paix. Elle créa un immense soulagement dans le monde arabe. Une dernière chance était donnée de résoudre pacifiquement le problème des armes de destruction massive irakienne et d'éviter une intervention militaire. Alors, de l'avis général, la diplomatie française, sous l'autorité de Jacques Chirac, qui avait largement contribué. Alors, la crise au Conseil de sécurité éclata peu après, à la fin du mois de janvier 2003, et elle dura 2 mois. Alors, pourquoi ? Alors, elle trouve son origine dans la décision américaine de partir en guerre en toute hypothèse, sans égard pour la résolution 1441. Sans doute, je pense, parce que les Américains considéraient comme acquis, se fondant sur le passé, que Saddam Hussein ne coopérerait pas pleinement avec les Nations Unies. Or, plus les semaines passaient, plus la coopération irakienne, par crainte probablement de l'intervention, devenait substantielle. Et dès lors que le problème des armes de destruction massive pouvait être réglé de manière pacifique, le rôle de la France a été de dire, avec force, que l'usage de la force serait inutile, illégitime et déstabilisant pour la région. Nous avons réussi à rassembler les États du Sud, membres du Conseil de sécurité, sur des positions très proches des nôtres, le Chili et le Mexique, comme les 3 États africains, Angola, Cameroun et Guinée, ont tenu bon avec notre aide, malgré les pressions considérables. C'est des pressions, plan commercial, considérables de Washington. Et finalement, le projet déposé par les États-Unis et le Royaume-Uni le 20 février pour autoriser le recours à la force, n'ayant aucune chance de passer, il fut retiré par leurs auteurs le 17 mars. Je pense qu'il n'aurait recueilli que 4 voix. Peut-être 5. Mais vraisemblablement 4. Celle des Américains, des Anglais, de la Bulgarie et de l'Espagne. Les États-Unis lancèrent donc leur opération militaire avec le Royaume-Uni, mais grâce à l'action de la France, largement soutenue notamment par la Russie et l'Allemagne, ils partirent en guerre sans avoir obtenu le sceau de la légalité internationale, et ce n'était pas rien. Alors, cette bataille diplomatique fut compliquée, difficile. J'y reviendrai en détail si vous le souhaitez, notamment pour expliquer comment fonctionnait l'équipe française de Paris à New York sous l'autorité du président. Alors, la France, dans cette affaire, est allée très loin dans son opposition aux États-Unis. Et quelles étaient donc les motivations du président Chirac ? Je pense qu'il faut prendre en compte plusieurs éléments en considération. D'abord, les principes. C'est-à-dire, en l'occurrence, la défense de la Charte des Nations Unies. Le président n'était pas pacifiste, il acceptait l'usage de la force, mais elle devait être légitime et en dernier sort. Et il tenait à ce que la disposition de la Charte soit respectée. Deuxièmement, Jacques Chirac, au vu des éléments dont nous disposions, doutait des informations et analyses américaines. Nous ne considérions pas qu'il y avait une véritable menace irakienne. En toute hypothèse, les inspecteurs de retour avec un mandat durci et bénéficiant de la coopération irakienne pouvaient régler le problème s'il restait encore des armes de destruction massive. On oublie que les missiles Al-Samoud, qui ne respectaient pas la résolution du Conseil de sécurité, ont été détruits en mars. Troisièmement, le président Chirac avait la conviction que cette guerre pouvait non seulement créer des souffrances considérables, mais bouleverser et déstabiliser la région, installer les chiites à Bagdad, favoriser le terrorisme en Irak, où Al-Qaïda n'était pas encore présent. Alors tout ceci a été dit très clairement à George Bush, dès 2002. Moi, j'en ai été le témoin. Et je crois que ce n'était pas un pressentiment, mais une analyse articulée du président, et je pense qu'elle était influencé par ses relations constantes et confiantes avec des chefs d'État arabes, la plupart sunnites, mais pas tous. Alors, je vais faire une petite parenthèse. On sous-estime parfois l'importance qu'avaient ses échanges fréquents avec certains chefs d'État ou leaders arabes. Alors, la cellule diplomatique les organisait, sauf pour le roi du Maroc et Rafik Hariri, dont je reparlerai. La relation était également très proche, confiante, avec Hosni Moubarak, qui passait souvent à Paris, c'est allé à Marigny, avec Cheikh Zayed. Il arrivait au président de décider de faire escale à Divonne au retour de voyage au Moyen-Orient, si Cheikh Zayed s'y trouvait. Les relations étaient moins étroites, mais néanmoins très bonnes, et les contacts assez réguliers avec le président Bouteflika, le roi de Jordanie, Abdallah d'Arabie Saoudite, ou encore l'émir du Qatar, ou même, il n'était pas sunnite, avec feu le président Saleh du Yémen, qu'il voyait moins, mais qui venait déjeuner tous les ans à l'Élysée. Jacques Chirac avait encore, lors de la crise irakienne en 2002 et au début 2003, une bonne relation avec Bachar al-Assad, dont il obtint d'ailleurs la résolution 1441. Alors, comment ça s'est passé? Eh bien, notre ambassadeur à Damas, qui était Jean-François Giraud, nous signale que, d'après les contacts et les informations qu'il a, les Syriens pourraient s'abstenir. Donc, on le dit au président, le président prend son téléphone, et puis on appelle Assad, et qui rectifia le tir. La position française dans l'affaire irakienne avait donc le soutien du monde arabe, comme en témoigne l'épisode qui s'est passé au Conseil. Vous savez, après le Conseil de sécurité, après le discours à l'ONU du 14 février 2003 de Dominique de Villepin, là, qui fut dans cette crise la voix de la France, le président étant le décideur, le phare, les applaudissements, contrairement aux usages, fusèrent dans la salle du Conseil de sécurité. Les applaudissements venaient de la tribune des ambassadeurs, non membres du Conseil, où il y avait tous les représentants permanents arabes. Et à la sortie, Ahmed Aboulkhri, qui est mon collègue égyptien, qui est le futur ministre des Affaires étrangères, qui est devenu secrétaire général de la Ligue arabe, me dit « Jean-Marc, aujourd'hui, la France a parlé en notre nom à tous, et nous l'avons fait savoir, sous-entendu aux Américains. » Le monde arabe compris très vite ensuite la politique, ce que je pense, la politique française à l'égard de l'Irak et la réconciliation franco-américaine à partir de 2004. De même que les Russes et la majorité de la communauté internationale, le président Chirac considérait qu'il fallait trouver une sortie politique grâce à l'ONU au chaos irakien. Il était désireux de ne pas aggraver la situation, et notamment les risques de cassure du pays par des bagarres au Conseil de sécurité. Nous avons donc accepté de voter des textes insatisfaisants pendant un an, en nous contentant d'exprimer des réserves. Finalement, la résolution 1546, qui était votée en juillet 2004, a répondu à notre attente en fixant notamment une véritable feuille de route en vue d'une pleine restauration de la souveraineté irakienne. Ce fut une nouvelle fois une négociation franco-américaine, mais en concertation avec le ministre irakien des Affaires étrangères venu à New York, qui suivait de près la discussion et qui était assez heureux, me semblait-il, de s'afficher ouvertement, en confiance, dans les couloirs et les salons des Nations Unies avec l'ambassadeur de France. Alors enfin, un problème en 2004 allait requérir une action conjointe franco-américaine à l'ONU, le dossier du Liban et de la Syrie que je vais maintenant évoquer. Alors comment expliquer l'engagement massif de Jacques Chirac sur le Liban ? Trois éléments doivent être pris en considération sur ce volet de la diplomatie, de sa diplomatie au Moyen-Orient. D'abord, sa conviction que la France avait une légitimité à intervenir sur les dossiers libanais, mais aussi syriens, et que cela était son intérêt. C'était une sorte d'entrée privilégiée dans les discussions de paix au Proche-Orient. Enfin, cela explique d'ailleurs, je pense, la mission d'Hervé Charette dans la région, peu après le discours du Caire, en 1996, lorsque les Israéliens ont lancé l'opération « Raisin de la colère », c'était une mission réussie où l'activité diplomatique française a dû finalement être acceptée par les Américains. Et Hafez al-Assad, avec qui le président avait une bonne relation, au point d'ailleurs qu'il a été le seul chef d'État occidental à se rendre à Damas à ses obsèques en 2000, acceptait cette ambition diplomatique française. Il avait d'ailleurs souhaité que Jacques Chirac intervienne auprès des Israéliens pour engager les discussions de paix contre le retrait du volant. Alors je vous renvoie sur ce point et sur d'autres aux mémoires du président. Alors, parallèlement, toujours pour des raisons historiques, avec la particularité du lien particulier avec le Liban, donc du lien francophone aussi, mais aussi pour des raisons de principe, le président avait la volonté d'aider le Liban à retrouver sa souveraineté sur l'ensemble de son territoire, c'est-à-dire notamment le retrait de toutes les troupes étrangères. Enfin, troisième élément à prendre en considération, qui n'est pas le moindre, était la relation de Jacques Chirac avec Rafik Hariri. Relation amicale, étroite, extrêmement forte, qui s'est conduite par un engagement extraordinaire de la France aux côtés du Premier ministre libanais en quête d'indépendance et d'aide économique internationale pour son pays. Cette relation explique ensuite la détermination du président à débusquer à travers l'ONU les coupables de son assassinat avec l'espoir de leur condamnation. Alors, j'évoquerai l'action menée de 2000 à 2007 en apportant mon témoignage successivement sur la relation syro-libanaise et sur le règlement du conflit entre Israël et le Hezbollah. Alors, à la mort d'Hafez al-Assad, une page se tourne. Inspiré par Hariri, misant sur la jeunesse du nouveau président syrien, à qui on prêtait une certaine ouverture sur le monde moderne, profitant aussi du crédit que lui donnait la relation avec le père, qui lui avait demandé de conseiller son fils inexpérimenté, Jacques Chirac va d'abord jouer le rapprochement et la coopération avec Damas, avec l'espoir d'obtenir rapidement un allègement de la tutelle syrienne sur le Liban. Mais cette voie se révéla une impasse. Bachar, pris dans le système à la huit, ne bougea pas et, n'ayant pas l'autorité de son père, eut même tendance à se durcir. Alors, en novembre 2002, donc on est encore dans la crise irakienne, lors de mon dernier entretien avec le président, avant mon départ à New York, il me dit de veiller à entretenir la bonne relation avec les Syriens à l'ONU, tout en me laissant entrevoir, cependant, que la ligne pourrait changer. Dans le courant de l'année 2003, après la crise irakienne, la relation franco-syrienne devient plus méfiante, parallèlement à la dégradation des rapports entre Hariri et Bachar. Et tout va tourner autour de la volonté de ce dernier de maintenir coûte que coûte dans les fonctions de président du Liban, Solom Lige et Billaout, en modifiant la Constitution. Et début 2004, président Chirac et Rafik Hariri envisagent de recourir au Conseil de sécurité pour obtenir le départ des troupes syriennes du Liban, ce qui était déjà beaucoup, mais aussi le désarmement des milices, c'est-à-dire du Hezbollah, de la mouvance de Téhéran, et enfin des élections libres au Liban sans ingérence extérieure. Alors, pour aller de l'avant au Conseil de sécurité, la France a cependant besoin en 2004 de l'appui américain, un an à peine après la crise irakienne. Alors, des émissaires sont envoyés à Washington et, selon une méthode éprouvée dans le fonctionnement de la diplomatie de Jacques Chirac concernant notamment le Liban, seules quelques personnes sont au courant. Après que George Bush, en juillet, sans prendre encore de décision, ait marqué un intérêt pour notre approche au Conseil de sécurité, car il veut, lui, affaiblir la Syrie qui joue un jeu trouble à l'égard de l'Irak, je suis chargé d'élaborer une tactique au Conseil de sécurité, donc mon travail sur le terrain, et d'en discuter avec les Américains. Fin août, Hariri est convoqué à Damas, menacé physiquement. Bachar exige de lui que la révision constitutionnelle soit engagée et que les députés qu'il contrôle la vote. Hariri s'exécute, mais le comportement que j'avais à l'époque qualifié d'hitlérien de Bachar, c'était connu, Hariri, nous l'avions fait connaître, donc tout ça, ce comportement, va déclencher les opérations à New York. Le 27 août, Français et Américains décident d'aller de l'avant au Conseil de sécurité. Le texte qui avait été discuté entre mon successeur, Maurice Gouvernement-Montagne, et Candy Rice, à la rédaction duquel, d'ailleurs, j'étais associé, est presque prêt. Et de passage à Paris pour la réunion des ambassadeurs, je vois le président qui me donne instruction de rejoindre, il me dit, vous partez immédiatement pour New York, et je sais, moi, la négociation à mener, et les amendements qui nous donneront les 9 voix en 48 heures, je pense, mais je lui dis, vous êtes le seul à pouvoir obtenir, par un entretien avec Poutine, l'abstention russe, qui commandera la neutralité chinoise. C'est ce qui se passe. La Russie ne met pas son veto. La résolution 1559 est adoptée le 2 septembre. Elle a été rendue en fait possible par l'indignation de bien des pays devant les méthodes syriennes. Alors, la résolution 1559 n'empêche pas la Houlde d'être réélue, Hariri démissionne, mais la Syrie est désormais à l'ordre du jour du Conseil de sécurité. Kofi Annan, instruit par le Conseil, doit faire régulièrement rapport. Il désigne un envoyé spécial. Bon, Rafik Hariri paiera son audace de sa vie. Il est assassiné le 14 février 2005. Le président Chirac va alors utiliser l'ONU pour la création en deux temps d'une enquête internationale, puis pour menacer de sanctions la Syrie peu coopérative et enfin obtenir la mise en place d'un tribunal spécial composé de juges libanais et internationaux en vue de condamner les auteurs du crime et d'autres assassinats politiques au Liban. Malheureusement, ce tribunal n'a toujours pas rendu sa sentence, mais il existe. Alors, parallèlement, un autre résultat est obtenu. Le regard indigné du monde sur la Syrie, la pression exercée sur Bachar avec l'aide de l'envoyé spécial du secrétaire général, aboutissent au retrait des troupes syriennes du Liban, pas des services, mais des troupes syriennes du Liban, qu'au prix de sa vie, Rafik Hariri a atteint l'objectif principal qu'il s'était fixé sur le chemin de l'indépendance de son pays. Lorsque fit le président Chirac pour le Liban, à l'époque, étonna par l'audace de ses initiatives. Alors, ce fut compliqué à New York, je pourrais y revenir si vous le souhaitez, mais je précise seulement à ce stade que les difficultés à surmonter ne provenaient pas du monde arabe, qui avait, je pense, compris notre action. La Syrie avait mauvaise réputation, Rafik Hariri était proche des Séoudiens, et au Conseil de sécurité, le délégué algérien, qui est le seul représentant arabe, pris entre deux feux, était plutôt gêné. Voilà, j'en viens maintenant aux hostilités entre Israël et le Hezbollah et à l'action de la France pour mettre fin à la guerre de 2006. Alors, le 12 juillet, Israël réagit à l'enlèvement de deux de ses soldats près de la frontière israélo-libanaise en lançant une offensive de grande envergure. L'objectif israélien est de casser les infrastructures militaires du Hezbollah au sud du Litani et d'empêcher à l'avenir les tirs de missiles Katyusha visant la population civile au nord d'Israël. Alors, Israël, les Israéliens ne font pas dans la dentelle. Leurs bombardements s'étendent à tout le pays, créant une situation humanitaire dramatique. Il y avait près d'un million de personnes sur les routes, des civils tués et blessés. Alors, ça en était trop pour Jacques Chirac, qui, après avoir été sensible à un affaiblissement du Hezbollah, donne très vite la priorité à l'arrêt des souffrances infligées au peuple libanais, et il exige dès le 14 juillet un cessez-le-feu, et envoie dans la région Philippe Douste-Blazy, qui était ministre des Affaires étrangères, pour essayer de l'obtenir. Alors, les Américains gesticulent de leur côté, diplomatiquement, bien décidés à ne rien faire et à ne pas gêner les Israéliens tant que Tsahal n'aurait pas atteint son objectif. Mais les jours passent et Tsahal s'enlise, au point que début août, les États-Unis sont également convaincus qu'il faut arrêter les combats. L'idée dominante et de faire une résolution du Conseil de sécurité, prévoyant notamment un cessez-le-feu, le retour des troupes israéliennes et des forces du Hezbollah du sud du Litani, et le renforcement du mandat de la FINUL pour que les Nations Unies soient à l'avenir capables de prévenir de nouvelles hostilités. Alors, d'autres éléments sont ajoutés. Alors, cette négociation, alors que les combats se poursuivent, va être menée entre Français et Américains. Avec John Bolton, accompagnés chacun d'un collaborateur, nous nous sommes réunis près d'une semaine, tous les matins et parfois l'après-midi, à la mission française, et nous avons fini, après un premier échec, par mettre au point un texte recueillant l'accord de nos capitales, mais aussi du gouvernement et du premier israélien et du premier ministre libanais, Fouad Siniora. Vous voyez comment les ambassadeurs travaillent. J'avais donc Pierre Vimont, qui était le directeur de cabinet à Paris, des affaires étrangères, Maurice Gourdeau-Montagne, qui était conseiller du président donc, à l'Élysée, donc je leur parlais. Et parallèlement, j'avais aussi donc, un téléphone crypté, je pouvais parler avec Bernard Aimier, qui était notre ambassadeur au Liban, pour s'assurer qu'on avançait, surtout après avoir un premier échec, qu'on n'allait pas se tromper, que le texte pourrait être accepté par Signora. Hein. Donc, c'est comme ça qu'on fonctionnait. Donc, les négociations furent suivies donc, de très près par le président Chirac, qui, dans un moment difficile, d'ailleurs, n'hésita pas, par un communiqué, à annoncer que la France était éventuellement prête, si les États-Unis ne faisaient pas preuve de souplesse, à soumettre seul un projet aux membres du Conseil de sécurité. Alors, ce petit drame qui était orchestré fut décisif, et le texte, nous avons réussi à mettre au point donc, ce texte. Les années ont passé, la résolution 1701 tient bon jour. Elle a été accompagnée par un retour de l'armée libanaise dans le sud, annoncé par Signora au milieu des négociations, annonce sur laquelle je m'étais appuyé pour bâtir le texte final. Alors, je vais raconter une anecdote, c'est que je pense que c'est l'un des premiers textes importants qui a été conclu avec l'aide des moyens modernes. Et, ce qui se passe, c'est que je suis au dernier moment, parce qu'Andy Rice est à New York, on doit adopter le texte, et le texte n'est pas tout à fait prêt. Le matin, je règle avec Bolton l'affaire des fermes de Sheba, mais on n'arrive pas à trouver la solution pour le retrait des troupes israéliennes et des forces... le moment du retrait des troupes israéliennes. Parce que les Américains nous disent, écoutez, les troupes israéliennes se retireront lorsque les forces de la nouvelle finule arriveront. Alors, Signora, ce n'est pas acceptable. Il ne peut pas à la fois conclure un accord sur le cessez-le-feu, avoir les troupes israéliennes qui ne commencent pas à partir et qui restent sur place en attendant que les autres arrivent. Donc, on n'y arrive pas. Donc, on essaye une fois, deux fois, trois fois, on ne trouve pas de texte, etc. Et puis, à un moment donné, Bolton me montre sur son iPhone, enfin, ça n'appelait pas iPhone à l'époque. Smartphone, donc il me montre un texte qui venait de l'Assistant Secretary of State, qui était Welsh, je crois, qui était dans la région. Et il y a le mot parallèle. Alors, je lui dis, ce texte ne va pas, mais on va bâtir sur parallèle, puisque parallèle, ça ne veut rien dire. Le facteur temps n'est pas pris en cause, mais on voit très bien que c'est parallèle. Ça veut dire pendant que les forces israéliennes s'en vont, les forces de la FINUL rentrent, les autres partent, et puis on a bâti ce texte sur le mot parallèle. Et voilà, donc c'était une petite anecdote amusante. Alors, dans cette affaire, Jacques Chirac est apparu une fois encore comme le meilleur ami du Liban. Que la France et les États-Unis, de leur côté, proche d'Israël et était à la manœuvre, a été jugé normal, utile pour arriver à bon port. En cours de route, lorsque la Ligue arabe a envoyé Amr Moussa à New York, accompagné de quelques ministres pour participer à la négociation, nous avons bien sûr rencontré longuement le secrétaire général de la Ligue, mais avec John Bolton, nous ne l'avons pas introduit dans la négociation. Cela aurait créé des complications et retardé l'issue. Finalement, le Conseil de sécurité a été très heureux de ratifier le 11 août, tel quel, le projet de résolution franco-américain accepté par les deux parties. Alors, l'évocation du Hezbollah me conduit à dire, à ce stade, quelques mots de la politique du président à l'égard de l'Iran, pays qui n'entrait pas dans sa sphère familière. À l'évidence, il s'en méfiait à cause du Hezbollah, de son rôle au Liban, des nuisances iraniennes dans la région. J'ai déjà évoqué sa préoccupation de voir les chiites s'installer à Bagdad, du fait de la guerre américaine en Irak. Mais cette méfiance s'accompagnait aussi d'un grand respect pour l'histoire, et même s'il ne la connaissait pas aussi bien que d'autres civilisations, mais la civilisation perse, il avait un très très grand respect pour les civilisations, pour leur histoire, pour ce qu'elles avaient apporté au monde, donc, et aussi d'une certaine dose de réalisme. Alors tous ces éléments explique qu'il ait été, avec une certaine prudence, favorable à ce que l'Iran retrouve sa place dans la région, à la condition que ce pays se plie à des règles. Alors, c'est en substance ce qu'il a dit à George Bush au lendemain du drame du 11 septembre 2001. Et en 2003, après le chaos créé par l'intervention américaine en Irak, on retrouve la même idée, accentuée par la crainte que les Américains usent également de la force à l'égard de cet autre pays de l'axe du mal. Et le président veut donc, à ce moment, une solution négociée du dossier nucléaire iranien, la suspension de toutes les activités d'enrichissement avec des garanties ouvrant la voie à un dialogue politique et à une coopération économique de Téhéran avec l'Europe ambitieuse, allant au-delà du nucléaire civil. Ce sera le début des négociations des trois Européens, France, Royaume-Uni et Allemagne avec Téhéran, qui ont été conduites par Dominique de Villepin. Plus tard, les Américains, les Russes et les Chinois ont rejoint les Européens pour former ce qu'on a appelé le groupe 3+3. Je reviens maintenant, c'est mon dernier développement, à la politique méditerranéenne donc, et au Maghreb. La politique méditerranéenne de la France et sa politique arabe ne peuvent pas être, je pense, totalement séparées. D'ailleurs, au lendemain des événements tragiques du 11 septembre 2001, lorsque le président Chirac est préoccupé de l'image négative dont pourrait souffrir le monde musulman en Occident, il commence sa tournée, qui le portera jusqu'au Golfe, par les pays du Maghreb. À la ferveur populaire à Alger, qui était meurtrie à ce moment-là par une catastrophe à Bab el Oued, qui était due à des pluies torrentielles, reste pour moi, je veux dire, un souvenir inoubliable. De même, en mars 2003, alors que la tension au Conseil de sécurité est extrême sur l'affaire irakienne, Jacques Chirac effectue des visites d'État dans les pays du Maghreb. Cela étant dit, il me semble quand même que la dimension européenne de la coopération envisagée, la proximité géographique et surtout la relation historique de ces trois pays avec la France et la particularité de nos rapports avec chacun d'eux, du fait de l'histoire, sont des facteurs qui priment. Et je me contenterai de trois commentaires concernant la politique de Jacques Chirac dans cette région. Le premier concerne l'espace euro-méditerranéen. Alors, l'idée de traiter de tous les volets de la coopération économique, culturelle, politique, avec l'espoir que le développement des échanges, la réduction des inégalités, le dialogue culturel pourrait transformer le voisinage avec le sud de l'Europe, rapprocher les peuples et les États jusqu'à créer un cercle vertueux favorisant la paix autour de la Méditerranée, n'est pas une approche spécifiquement chiraquienne. Je veux dire, on la retrouve dans le processus de Barcelone, comme dans l'idée d'union de la Méditerranée du président Sarkozy. On constate cependant chaque fois des évidences à propos du volet paix et sécurité. C'est évident, je crois que Védrine l'a dit très clairement, la Méditerranée est une zone géographique et non politique. Les crises ont leur spécificité, elles ne peuvent être traitées que séparément. Le deuxième commentaire concerne l'Algérie. Alors moi, je n'étais plus auprès du président lorsqu'a été lancée en 2003 l'idée du traité d'amitié entre la France et l'Algérie, mais j'avais assisté à des entretiens avec Bouteflika en 2000, 2001, 2002, à Paris, New York ou Alger. Bien sûr, il y avait des non-dits, mais leur sincérité m'avait quand même frappé. Le président Bouteflika, je crois, malgré son autorité, ne pouvait cependant porter atteinte à ce que j'appellerais le credo FLN. Quant au président Chirac, il ne pouvait accepter l'exigence de repentance présentée par les Algériens. L'affaire a été ensuite rendue encore plus compliquée par le débat au Parlement français sur l'introduction dans une loi relative aux rapatriés d'un article mentionnant le rôle positif de la colonisation. Troisième point. Malgré ses bonnes relations avec le roi du Maroc et le président Bouteflika, Jacques Chirac, je crois, n'est jamais parvenu à les rapprocher pour favoriser un vrai dialogue. Ben, il faut ajouter que sur le Sahara occidental, son soutien au Maroc a été constant, ferme et total. Il comprenait le souci de Mohamed VI, dans la ligne de son père, de ne prendre aucun risque, de n'envisager une consultation référendaire que pour confirmer l'appartenance du Sahara occidental au Maroc. C'était, je pense, c'est le sort du royaume, mais donc la stabilité du pays et de la région qui était en cause. Alors j'ai eu, moi, à expliquer à James Baker, il le lui a dit après d'ailleurs, représentant de Kofi Annan, en présence de ce dernier, lors d'un déjeuner Conseil de sécurité que son plan prévoyant un référendum après une période d'autonomie ne pouvait bénéficier de notre aval, alors qu'il avait sans doute espéré que nous le soutiendrons ses efforts en expliquant aux Marocains qu'ils avaient de grandes chances finalement de l'emporter. Bon. Je savais l'affaire du Sahara occidental tellement sensible pour le président que je m'en entretenais directement avec lui si j'avais besoin d'un peu plus de souplesse dans la perspective de discussions parfois compliquées au Conseil de sécurité. Voilà, tel a été, avec le regard d'un ambassadeur qui a été mêlé, la politique du président Chirac vis-à-vis du monde arabe. Je crois que la lecture de cette politique est facilitée lorsque les différents morceaux du puzzle, qui ont chacun leur logique, sont assemblés. Quand on regarde avec inquiétude les évolutions qui se sont produites après cette époque, on est parfois amené à se demander, mais qu'aurait-il fait ? C'est en tout cas la question qui m'est parfois posée. Je me garde d'y répondre, car cela n'aurait absolument aucun sens. Je me contente de reprendre certains des ressorts de son action internationale que j'ai déjà évoqués en disant, premièrement, ne sous-estimez pas la capacité qu'il avait de concevoir un changement de politique. Sur la Syrie, nous savons que peu avant la fin de son deuxième mandat, il a envisagé une évolution un jour ou l'autre de la ligne qu'il avait arrêtée, ce qu'il a laissé entrevoir en août 2006 à notre nouvel ambassadeur à Damas, Michel Duclos, qui était un ami, qui était mon adjoint à New York, qui était un ami, en lui donnant la mission de commencer à renouer les fils. Duclos le rapporte dans son récent livre, que je vous recommande, c'est « La longue nuit syrienne ». Ensuite, je rappelle la concertation très étroite de Jacques Chirac avec Vladimir Poutine, y compris sur le Moyen-Orient. Ainsi, en 2004, lorsque le conseiller du président, Maurice Bourgoin-Montagne, est envoyé à Damas pour inciter Bachar à prendre une initiative sur le Liban, faisant apparaître la Syrie comme un État désireux d'œuvrer en faveur de la paix et la stabilité, l'émissaire est mandaté à la fois par Chirac, Poutine et Schröder. J'ajoute enfin à propos de la Libye des éléments suivants. Si le président Chirac a accepté dans certaines conditions l'usage de la force, un tel usage devait être selon lui proportionnel. Et je rappelle que c'est ainsi que dans l'affaire du Kosovo, en 98-99, il a empêché la destruction massive des ponts de Belgrade. Il était par ailleurs opposé au concept dit du regime change. Voilà, quelques pistes de réflexion. Merci beaucoup.
Merci, monsieur l'ambassadeur.